Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on s'intéresse à la crise du milieu de vie, ce moment un peu vertigineux où l'on se rend compte du temps écoulé et surtout du temps qu'il nous reste, le temps des deuils, des renoncements, mais aussi de la renaissance et de la plénitude. À quoi correspond exactement ce moment essentiel de notre existence? Comment aborder ce tournant? Que faire de sa seconde moitié de vie? Question témoignage au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Nos invités, la psychiatre et psychothérapeute Françoise Millet-Bartoli et la co-scénariste de l'excellente série Cadra, diffusée sur M6, Mélissa Drijard. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
La crise du milieu de la vie a inspiré vos choses vues?
Oui, ça m'a fait penser à la deuxième partie d'une belle randonnée.
À tout à l'heure. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles, quoi de neuf dans votre intervention en fin d'émission?
Eh bien, on s'intéressera à la journée sans voiture à Paris, c'est très bientôt.
À tout à l'heure.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebi.
Avec nous pour évoquer la crise du milieu de la vie, un premier témoin. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Vous avez 59 ans, vous êtes navigateur, écrivain et vous habitez dans le Limousin l'été et dans les Caraïbes l'été. Alors je crois savoir que la crise du milieu de vie chez vous a pointé le bout de son nez il y a une vingtaine d'années.
Oui, c'est à peu près ça. Oui, j'avais environ une quarantaine d'années, c'est ça. Vous savez, en fait, c'est jamais au rond-point chiffré de notre existence que ça se passe, je crois. Vous avez une bonne expression quand vous dites « milieu de vie », parce qu'on se réfère toujours au temps passé et au temps qu'il nous reste, oui. Je crois.
Comment s'est manifestée chez vous cette crise, d'abord d'un point de vue professionnel?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au bout d'un cycle professionnel où je me suis remis en question à ce moment-là. Et j'ai donc décidé de me séparer de ce qui faisait ma profession à l'époque, hein, qui était déjà tout de même dans le nautisme, mais je n'écrivais encore que quelques petites choses. Et puis j'ai décidé de m'arrêter et d'essayer de céder mon entreprise à l'époque, et puis de me mettre à écrire.
Est-ce que cette remise en question professionnelle a eu des répercussions sur votre vie intime et personnelle?
Pas exactement tout de suite, parce qu'en fait, mon couple à l'époque, en fait, le contrat amoureux a été maintenu, on a essayé de mener ce projet ensemble. Je dirais que le temps long de la crise, parce que je crois qu'il y a un temps court et un temps long, il y a ce moment de la quarantaine qui est à peu près le milieu de vie, où on prend des décisions, et le temps long, se réfère à une autre échelle, et à cet instant-là, non, on ne peut pas dire que ça a beaucoup impacté. Je pense que l'impact sur la vie intime, ce que vous appelez la vie intime, a été plus long à venir.
Alors, quels enseignements tirez-vous de cette crise? Vous avez aujourd'hui 59 ans, elle est derrière vous peut-être?
C'est une bonne question. Est-elle derrière moi? Oui, parce que je me sens centré aujourd'hui dans ma manière de vivre et ce que je fais. C'est pour ça que je vous parlais de temps court et de temps long. Moi, j'ai l'hypothèse que la crise de milieu de vie, elle commence à 20 ans. C'est-à-dire que quand on a une vingtaine d'années, au sortir de l'adolescence, on cherche sa propre dimension, on a des espoirs, des idéaux, on prend des décisions. Si en milieu de vie, ces décisions-là s'avèrent peut-être un peu en désaccord, on se pose des questions, on prend des décisions, on regarde, en fait, c'est un peu ce qui se passe à ce moment-là. Et le temps long, en fait, fait son œuvre. Et je pense que tout commence à l'adolescence et pendant la jeunesse, en fait.
Bonjour Françoise Millet-Bartoli.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, auteur d'un ouvrage en poche consacré à la crise du milieu de vie comme deuxième chance. Bonjour Mélissa Drijard. Vous êtes la co-scénariste et co-réalisatrice de la série Cadra, excellente série diffusée ce soir sur M6 à 21h. Premier regard sur le témoignage de Laurent, Françoise Millet-Bartoli.
Alors, il est très intéressant parce que il fait partie. On sent qu'il a fait une crise qui s'est exprimée. Fait partie des crises qui ont entraîné des grands changements, ce qui n'est pas toujours le cas de la crise du milieu de la vie. Il semble quand même avoir réussi. Et alors, il soulève beaucoup de choses, beaucoup de questions intéressantes. qu'on développera peut-être si on a le temps, mais d'abord, il y a le retentissement, comme vous l'avez dit, sur la vie personnelle, parce que c'est vrai que la crise du milieu de la vie, même si elle est au départ une crise individuelle, entraîne peu ou prou une crise de couple et que c'est pas facile pour le conjoint ou la compagne de le traverser avec. Donc ça, c'est un point important. C'est une crise individuelle, mais qu'on ne fait pas seul. Et ce que je trouve intéressant, alors, c'est son idée de temps long et temps court et son idée que, finalement, la crise commence à 20 ans. Alors, moi, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois, mais certains auteurs considèrent que la crise du milieu de la vie correspond en fait à la fin de l'adolescence. Donc, c'est un peu ce que décrit Laurent. En général, on compare plutôt la crise du milieu de la vie à une deuxième adolescence, mais là, il développe une autre idée qui est soutenue par certains, que en fait, on mûrit, et qu'on ne sortirait de l'adolescence, on deviendrait vraiment adulte, que avec cette crise du milieu de la vie.
Mélissa Drijard, sur le témoignage de Laurent.
Alors, il y a deux choses que je trouve très intéressantes. C'est qu'il dit que sa première crise était à 25 et à 65 ans, il n'est pas sûr que ce soit terminé. Voilà. Et c'est vrai que nous, dans Quadra, avec Vincent...
Vincent Juillet, le co-scénariste.
Avec Vincent Juillet, oui, le co-scénariste, avec qui je travaille depuis 10 ans, on a parlé de toutes ces crises, de toutes ces formes de crises qui peuvent éventuellement commencer autour de 20 ans et se terminer beaucoup plus tard. Et puis avec l'allongement de la durée de vie, les crises sont de plus en plus longues. Et puis on s'est demandé aussi avec Vincent, et j'entendais ça dans le discours de Laurent, si c'était pas, si ça avait ce nom-là, mais si finalement c'était pas un sursaut de vie, en fait.
Tiens, Laurent, c'est très bien vu ça. Est-ce que vous avez l'impression de vivre un sursaut de vie ?
Fistre.
C'est vertigineux, je sais, à 10h14.
C'est bien comme idée, je trouve, l'idée du sursaut de vie. C'est un sursaut. En fait, tout se passe, je pense, à ce moment-là, quand on est dans ces prises de décision que finalement, autour de soi, on appelle une crise. Je suis pas sûr que soi-même, on le vive à ce moment-là comme une crise, mais plutôt comme une continuité, ou plutôt l'émergence de choses qui étaient enfouies. À ce moment-là, ça peut être assimilé à un sursaut. C'est une belle idée, oui, je trouve.
Merci beaucoup, Laurent, pour votre témoignage. Christophe André.
Oui, c'est passionnant. De toute façon, tout ce qui se passe dans nos vies, la manière qu'on a de les conceptualiser en parlant de crise, au fond, on a des patients qui apparemment n'ont pas de crise du milieu de la vie, mais qui sont en processus de crise, de petite crise permanente, de remise en question, d'ajustement avec leur environnement, et d'autres qui s'endorment un petit peu dans des habitudes, des ronrons, des trains-trains conjugaux, professionnels, et tout à coup, effectivement, ils ont besoin de ce sursaut de vie parce qu'ils étaient un tout petit peu en train de se momifier quand même. Donc, on a toutes les variantes dans l'écoute des personnes qui nous arrivent d'accueillir.
Alors, le milieu de la vie, c'est cette période de la vie adulte, loin de la vieillesse, plus tout à fait la jeunesse. Alors, la crise de milieu de vie, la middle life crisis, c'est une notion plutôt récente, apparue dans les années 1960-70 dans les littératures psychosociologiques anglo-saxonnes, dans la lignée du psychanalyste Carl Gustav Jung. C'est le psychologue canadien Elliot Jack qui a théorisé ce Big Bang existentiel en 1963. Mais votre père, Françoise Millet-Bartoli, a joué un rôle, hein, Lucien Millet, dans ce concept de crise de milieu de vie.
Oui, je crois que c'est lui qui l'a développé en France, on peut le dire comme ça. Alors j'ai contribué un peu jusqu'à probablement ce que j'arrive moi-même à la période en question. Et j'ai un peu voulu lui rendre hommage. Et puis j'ai écrit ce livre à sa mémoire parce que je me suis rendu compte, probablement encore une fois parce que j'arrivais à ce moment-là, que c'était vraiment une réalité. Mais c'est vrai que jusque-là, on en parlait dans les films de Woody Allen, mais on n'en parlait pas trop. Or, je crois que c'est réellement une crise existentielle.
Et on en parlait également dans les films d'Yves Robert. Moi, je pense à Un éléphant, ça trompe énormément, à Nous irons tous au paradis, ou encore au film de Claude Sauté, ou encore au film des Bakri Jaoui, Mélissa Drijard. Je pense que ça vous a nourri forcément pour cette série Quadra.
Bah, vous citez que des films qui sont des références pour Quadra. Donc, c'est assez drôle. Et puis nos références aussi, c'était notre entourage.
Ah ben oui. C'est très sociologiquement bien vu, hein, votre série.
Bien parce que, comme je viens de vous dire, on s'est inspiré de nos amis. Moi, quand on a écrit, j'avais 35 ans. Vincent en a 50. Donc, on a des amis autour de nous qui ont à peu près cet âge-là. Et on les a vus traverser et on les a accompagnés dans ces crises. Et d'ailleurs, souvent, la crise, elle prend aussi ce nom parce que c'est les dommages collatéraux, en fait. Mmh. C'est nous qui pointons du doigt et disons « Ah, je crois qu'il est en crise ».
Par exemple, votre personnage interprété par François-Xavier de Maison, il a 43 ans, il vit une quarantaine particulièrement gratinée. Hein.
Bah oui, parce qu'il quitte sa femme Isabelle, que j'incarne, pour une femme qui est d'ailleurs pas forcément plus jeune. On a essayé de ne pas tomber dans les caricatures dans lesquelles on a l'habitude de mettre... les personnages, parce que c'est facile. Nous, on a juste tordu un petit peu la réalité, et puis vraiment, on a essayé vraiment comme ça de coller à des crises qu'on avait vraiment vécues, qui nous ont fait rire et parfois pleurer.
Françoise Millet-Bartoli, cette période du milieu de la vie, elle peut être vécue de façon très intérieure, ou alors donner naissance à des bouleversements assez spectaculaires, avec deux attitudes, peut-être, au moins face à cette période, un nouveau départ, ou alors le temps du déclin.
Et l'un n'empêche
de façon
pas
très
l'autre.
Schématique. Hein.
Oui, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un moment de dépression ou de quelque chose qui y ressemble et qui va permettre de mettre en place finalement des changements et au fond ce fameux sursaut de vie dont on parlait tout à l'heure. Alors, Elliot Jack, dont vous parliez d'ailleurs tout à l'heure, dit que de toute façon, on fait une crise du milieu de la vie et que même les gens qui ont l'air heureux, qui refont leur vie, sont en fait ni le temps qui passe et ni ce moment de tristesse face au déclin, parce qu'on vieillit forcément, on le ressent dans son corps, on le ressent sur son corps, sur son visage... On sent, même intellectuellement, on sent qu'on perd un peu de vivacité. Et puis c'est aussi une période où l'on peut perdre ses parents. Souvent les enfants s'en vont ou échappent un petit peu à ce qu'on avait projeté sur eux. On a des amis aussi qui peuvent tomber malades. Donc dans
c'est un tableau très optimiste là.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a l'air triste, mais à partir de là, même si on traverse une dépression, ça peut être au contraire l'occasion de faire le point sur sa vie et de redémarrer autre chose et d'avoir une très belle deuxième partie de sa vie.
Mélissa Drigard, vous pouvez raconter quand même en quelques mots l'argument, le pitch de votre série Cadra?
Eh bien, c'est une histoire d'amour entre Alex et Agnès. C'est un deuxième mariage. Ils sont au mariage avec tous leurs amis.
Plutôt
Quadra. Et il y a une annonce à la fin du premier épisode qui va créer une crise et une crise pour tout le monde. Derrière. Et donc, à travers des flashbacks, on va essayer de remonter, d'essayer de comprendre cette intrigue qui se passe au mariage.
Allez, n'hésitez pas à nous raconter cette crise du milieu de la vie, vécue comme le temps du déclin ou alors comme une renaissance au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Cette émission est préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan, avec notre journaliste Théo Denmat, avec l'aide d'Antoine Vandeville, et c'est réalisé par le fringue en quadra Eric Lenné.
Celles qui ont vu trois fois Reine-Mère, celles qui ont pleuré Balavoine, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celles qui disaient « Tu comprends pas ». Les filles de 1973 ont 30 ans, la la la. Les filles de 1973 ans. Celles qui mettaient des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la.
Vincent Delerme, les filles de 1973 ont 30 ans.
Tu sais ce que c'est, quelqu'un de rock ?
Oh, l'expression de vieux con.
Grand bien vous fasse.
Trois rock.
Qu'est-ce que t'es chiant, toi ?
N'importe quoi, quoi. Rock'n'roll.
Sur France Inter.
Et les filles et les garçons aussi de 1973 vivent peut-être une crise de la quarantaine, une crise du milieu de vie. On essaie de comprendre à 10h23 ce qui se joue avec la crise du milieu de vie, cette riche période vue comme une renaissance ou alors comme un déclin inexorable mais toujours riche d'enseignements.
Je me demande si j'ai fait les bons choix dans ma vie, quoi, si... Parfois je me sens pas à ma place.
Mais elle est où ta place, hein ?
Je sais pas, j'ai juste peur de rater ce qui me reste à vivre. Tu comprends pas que plus on avance, plus le champ des possibles se réduit, que les options sont nombreuses.
Quelles options? Tu me parles de Tnana.
Mais non, mais arrête avec ça, c'est chiant.
Je m'énerve pas comme ça.
Je m'énerve pas, mais tu peux pas comprendre que je me pose des questions sur ma vie.
Un extrait de la série Quadra avec François-Xavier de Maison et Mélissa Drijard, comédienne et co-scénariste et également co-réalisatrice. Alors la crise du milieu de la vie, c'est le moment où on a vraiment peur de rater ce qui reste à vivre. Françoise Millet-Bartoli, je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute. De se rendre compte que le champ des possibles se réduit.
Oui, c'est ça qui est difficile et qui peut être mais qui peut être triste évidemment, mais qui amène à rebondir. C'est en tout cas un moment où on fait un peu le bilan de ce qu'on a réalisé jusque-là, et c'est le moment où on se rend compte des choix, on réfléchit aux choix qu'on a fait et où on se dit qu'au fond on pourrait faire maintenant se rapprocher un peu plus de soi-même. C'est quand même une crise d'identité. Et on se connaît mieux, donc même si on n'a pas tout réalisé, on peut faire des projets, rebondir et décider de faire vraiment ses propres choix et non plus ceux qui ont pu nous être imposés, notamment par les parents, par une éducation. C'est un moment où on se sent quelquefois dans un costume ou trop grand ou trop petit et où on a vraiment envie de devenir soi-même, mais on sait que le temps est compté parce que...
Il est difficile ce temps des grands renoncements.
Alors, il y a beaucoup de renoncements, oui, c'est difficile, et c'est ça qui peut entraîner une dépression ou un mouvement qui y ressemble, et c'est ce qui fait que ce thème de la crise du milieu de la vie peut paraître triste, parce qu'on est obligé de renoncer pour rebondir.
Mélissa Drijard.
Et puis, je crois que sans renoncement, il n'y a pas de liberté, finalement. Donc, tant qu'on n'a pas fait un choix qui peut être terrible, qui peut s'appeler une crise... Il n'y a pas de possibilité de sortir de cet enfermement. J'ai une amie qui est en pleine crise, je ne vais pas citer son nom, et qui me dit « Mais tu te rends compte, si je reste là, si je reste dans ce couple, c'est comme si... » j'ai le sentiment, en fait, d'avoir signé à perpétuité. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça incroyable, ça fait réfléchir quand même, cette sensation comme ça, que si elle ne sort pas de là, si elle n'a pas une nouvelle vie, si elle ne recommence pas quelque chose, elle est en train de mourir. Et que donc renoncer à cette histoire, finalement, c'est avoir la liberté de vivre autre chose.
Christophe André.
Oui, mais c'est le Lucien Millet dont on parlait tout à l'heure.
Votre grand maître.
Voilà, mon grand maître, qui aurait été le théoricien français de la crise du milieu de la vie, disait c'est une troisième naissance. Et la première naissance, c'est la naissance physique au monde. On arrive comme petit humain dans le vaste monde. La deuxième, c'est, bon, disons qu'on devient adulte, finalement, vers 20 ans. On naît comme individu social, acteur de la société. Et la dernière, c'est la naissance à soi-même, alors qui peut se faire une fois de plus en douceur, mais qui peut parfois être complexe, notamment par rapport à ces renoncements, ces allègements, voire ces ruptures qu'aucun de nous n'aime effectuer dans sa vie. On aime tous être plutôt dans le confort et la continuité, mais parfois on est trop encombré, trop écrasé. Et là, il faut faire un petit peu de ménage.
Bonjour Audrey.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. D'où appelez-vous Audrey ?
Merci, j'appelle de Rennes, en Bretagne.
Alors, est-ce que vous l'avez vécu, cette fameuse crise du milieu de la vie ?
Oui, en tout cas, j'en ai l'impression.
Expliquez-nous.
Eh bien, passé 35 ans, j'ai constaté, alors j'avais fait un doctorat, j'avais un job sympa, plutôt de la reconnaissance, une vie personnelle épanouie, mais je me suis rendu compte qu'en fait, jusque-là, je n'avais fait qu'obéir à une espèce d'attendu normatif de la société, et que s'il me restait du temps, il ne m'en restait certainement pas plus de ce que je voulais vivre, en fait, 35 ans. De vie professionnelle, de vie physique, sportive, valide. Et en fait, cette remise en question qui était au départ assez névrotique, puisque tout le monde autour de moi me disait « Mais qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu as tout, t'es contente. » C'est assez incroyable de constater à quel point les gens décident pour vous si vous êtes heureux ou pas. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai tout remis en question. Alors, j'ai gardé certaines choses et j'en ai écarté d'autres. Notamment, j'ai repris d'autres études en plus de ma profession, alors que j'avais quand même atteint un niveau d'études qui n'était pas insatisfaisant. J'ai donc passé d'autres diplômes, commencé à me donner des droits, de plus en plus de droits, professionnellement déjà de changer, sportivement, tout ce que je m'étais finalement interdit à l'approche de la trentaine, les sports de haut niveau, etc., en me disant « ton corps ne voudra plus », mais en fait mon corps voulait encore. C'est simplement la société qui m'avait laissé entendre que mon corps ne voudrait plus. Et je me suis rendu compte que finalement, après une période assez courte, névrotique et un peu triste, j'étais redevenue, enfin devenue même, quelqu'un d'extrêmement libre et qui ne se censurait plus en grand-chose. Et effectivement, le temps qu'il me restait à vivre n'était plus un problème de compteur, comment dire, angoissant, mais c'était une chance tous les jours de pouvoir en faire de plus en plus. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, l'éventail se restreint, l'éventail des possibles, à tout point de vue. On est dans une société jeuniste, changer de profession à 40 ans, quand on a déjà une profession supérieure, ça paraît étrange, on ne vous accueille pas avec plaisir. Reprendre des activités sportives de haut niveau, ça paraît étrange aussi. Mais les principales difficultés, les principaux blocages sont du ressort des attendus normatifs de la société.
Très joli témoignage, Audrey. Il y a Sonia qui vient de nous appeler. Bonjour Sonia.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde.
Vous appelez d'où, Sonia ?
Alors, j'appelle de l'Isère, d'Anjou.
Alors, est-ce que le témoignage d'Audrey, à Rennes, vous parle ?
Oui, complètement. Ça me fait complètement écho, en effet. Donc, comme Audrey, ça, enfin, moi, ma crise, entre guillemets, de quarantaine, elle s'est imposée après 35 ans, vers les 37 ans plus exactement. Et voilà, en fait, ce que je voulais dire, moi, c'est que le terme crise de quarantaine me dérange, entre guillemets,
pourquoi
un petit peu.
Pourquoi
dans la mesure où le terme crise fait résonner en moi quelque chose de presque négatif ou de presque dément ou presque comme si qu'on n'avait plus contrôle, en fait, de ce que l'on fait. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Françoise Millet-Bartoli va vous répondre sur cette notion de crise qui peut effectivement faire peur si on la compare avec la crise d'adolescence. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des analogies entre la crise d'adolescence et la crise du milieu de vie ?
Oui, il y a des analogies, ne serait-ce que dans la façon dont ça se manifeste. Il y a des crises d'adolescence révolte, comme il y a des crises de la quarantaine révolte. Il y a des crises de l'adolescence plutôt moroses, comme il y a des morosités de la quarantaine. Et donc ça a été très souvent comparé.
Mais sur le terme crise qui peut faire peur à Sonia ?
Alors, je crois qu'il faut se dire qu'une crise n'est pas une catastrophe. Une crise, ça veut dire qu'un équilibre qui jusque-là tenait à peu près est en train de se déstabiliser. Il faut retrouver un équilibre et je crois qu'il faut pas en avoir peur. Enfin, on va quand même donner un message un peu positif.
Alors Sonia, on peut peut-être utiliser le terme de transition. Comment avez-vous vécu cette transition de vie?
Moi, je trouve que c'est mieux.
Pardon. Moi, je préfère aussi ce terme-là. Et c'est vrai que le terme crise, pour moi, il s'est imposé de par l'extérieur lorsque voilà, j'ai voulu prendre ma vie en main, faire mes propres choix. Devenir ce que j'étais réellement, ne plus suivre les dogmes extérieurs qui m'avaient été inculqués depuis toujours. Donc pour moi, c'était plus une transition, une espèce de développement de personnel de moi-même. Et le terme de crise, il m'était imposé par l'extérieur, en fait, qui ne comprenait pas mes choix. Je trouve que Audrey a bien expliqué
En tout cas, Mélissa,
par rapport aux autres.
Mélissa Drijard, j'ai l'impression qu'on a affaire à deux femmes qui ont repris le contrôle de leur vie. Audrey et Sonia. Et peut-être si... également votre personnage dans la série Quadra.
Je ne sais pas si Sonia et Audrey vont être d'accord avec moi. Je trouve ça intéressant quand Sonia a utilisé le mot dogme et Audrey avant droit. Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir toujours comme ça un devoir de réussite important. Comme si en fait on devenait des carriéristes de notre vie intime au même titre que notre carrière professionnelle. Et il y a comme ça une chape très très lourde qu'on doit supporter tous les jours. Et c'est une sorte de délivrance finalement. Donc c'est vrai que le mot transition est je trouve plus intéressant.
Audrey?
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une sorte de mue, comme il y en a peut-être plusieurs dans une vie. J'imagine que la retraite, ça doit être une mue supplémentaire. On quitte l'activité pour entrer dans un autre type d'activité. Eh bien, la crise de milieu de vie, moi, je la vois plutôt comme une crise au sens étymologique du terme. Il y a une forme de révolution, si on s'écoute. Mais c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément dépressogène.
Merci en tout cas Sonia et Audrey pour vos jolis témoignages. Alors, c'est vrai que j'ai demandé à des trentenaires et des quadras autour de moi de me décrire leur vision du milieu de la vie. Alors, je dois vous avouer, très peu de réponses enthousiastes. La crise du milieu de vie était davantage vue comme un boulevard vers le crépuscule plutôt que comme un soleil à son zénith, Françoise Millet-Bartoli.
Alors sûrement pas boulevard vers le crépuscule, mais c'est quand même ce qu'on redoute. Et alors ce que je voulais dire, et je reviens un peu sur les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est qu'aujourd'hui nous avons un âge adulte qui s'étend quand même, une nouvelle tranche adulte qui s'étend de 40 à 60 ans, pardon, alors qu'il y a à peine un siècle, à 50 ans, on était vieux et au fond on se résignait un peu à la vieillesse, alors que là maintenant on a cette nouvelle tranche qui est assez longue et par ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais on a une forme d'injonction quand même à rester jeune, à s'entretenir, à lutter contre le vieillissement. Donc on a un nouveau poids, mais du coup ça crée une tranche nouvelle et la vieillesse est quand même très repoussée.
Mais Christophe André, degré ou de force
Et on a le temps de faire des choses surtout.
Le milieu de vie nous force à nous interroger sur le temps qui nous est compté jusqu'à la vieillesse. Surtout, on le disait tout à l'heure, quand on voit ses parents vieillir ou disparaître. Pour beaucoup, il est difficile de se coltiner ces grandes questions existentielles.
Oui, mais il y a un autre dossier passionnant autour de cette histoire de crise du milieu de la vie, c'est ce que vient de souligner Françoise Millet, c'est-à-dire l'évolution avec le temps. Ça n'était pas la même chose de vivre une crise du milieu de vie dans les années 60, quand le concept a été forgé, parce qu'on était dans des sociétés beaucoup plus rigides, avec effectivement des catégories beaucoup plus clairement établies entre les adolescents, les jeunes, les adultes, les retraités, etc. Aujourd'hui, on est dans des sociétés plus liquides, plus floues, d'où ce que disait Sonia, parler plutôt de transition que de crise, même si pour certaines personnes, ça se passe de façon un petit peu explosive.
Mélissa Drijard, sur les questions existentielles qu'on se pose à ce moment de la vie, pendant cette transition ?
Je me demande si finalement c'est pas plus dans la lumière tout ça plutôt que dans le côté obscur, parce que par exemple on disait avec l'allongement de la vie la crise devient plus longue parce que finalement il y a une espèce on a envie de rester jeune, mais en fait c'est assez rigolo parce qu'avec l'allongement de vie du durée de la vie on est vieux plus longtemps. Et c'est assez intéressant parce qu'on l'a pris dans l'autre sens en fait. On a décidé de rester jeune plus longtemps.
Sabrina Nadjar, rédactrice en chef à Femmes Actuelles, est-ce que ce sont évidemment des questions qui occupent vos lectrices ?
Bien sûr, évidemment, ce sont des questions qui occupent nos lectrices et effectivement sur un laps de temps assez large de 30, 35 ans jusqu'à 50, 55 ans, voire même plus.
Il y a Solène qui nous dit par courriel comment on lui a posé la question comment avez-vous vécu votre crise de la quarantaine, elle nous répond mal avec un point d'exclamation, j'ai 41 ans, je la digère seulement, beaucoup de remises en question, l'impression que le temps filait vite sans que j'ai fait ce que j'avais vraiment envie de faire, que j'étais vieille et moche, après un an de digestion ça va mieux et je fais en sorte de réaliser mes rêves, je me dis souvent à 60 ans tu regretteras tes 40, ça aide. Françoise Millet-Bartoli, ça peut aider de se dire que bon, bah finalement, c'est pas si mal que ça.
Ça peut aider. Et puis, elle a peut-être trouvé aussi des ressources en elle-même pour peut-être pas réaliser des nouveaux rêves, mais l'insatisfaction est source de créativité quand même. Donc, même si c'est pas une créativité artistique, c'est une créativité personnelle et ça peut être, ça nous pousse à chercher en nous des ressources pour développer autre chose.
Je comprends pas tout ce que tu me dis exactement, mais tout ce que je sais, c'est que dans la vie, il faut oser. Hein, on n'en a qu'une, il faut oser la vivre, quitte à se tromper.
Qu'est-ce qu'il y a à dire ?
Mais il faut que tu fasses confiance à ce que tu ressens, et il faut sortir de ta boîte. Hein, sinon, c'est ça qui est foutu pour toujours. De toute façon, c'est simple, celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une seule fois. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Véronique Sanson.
Ah. Oh.
J'adore Véronique Sanson.
Oui, moi aussi.
Non, ce qu'elle veut dire quand elle dit ça.
Non, j'ai compris.
Bah alors, si t'as compris, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y, fonce.
Oui, ça va, calme-toi.
Mais je te vois, t'es là, tu...
T'as raison. Et puis les décisions qu'on prend après 40 ans, c'est forcément les bonnes.
Forcément.
Dialogue savoureux de la série Quadra entre Julien Boisselier et François-Xavier de Maison, pardon. Mélissa Drijard, les décisions que l'on prend après 40 ans sont forcément les bonnes ?
Non, je pense pas.
Comme le dit François-Xavier de Maison.
Non. Ni avant, ni après, enfin je sais pas, c'est... là c'était une formule, plutôt.
Françoise Millet-Bartoli. Ça vous laisse perplexe.
Pas forcément. Bon, elles sont peut-être mieux assumées, mais bon, il faut faire avec le destin aussi. Et puis, on n'est pas seul non plus pour décider.
Allez, il est déjà l'heure des choses vues de notre psy maison, Christophe André.
Choses vues.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Christophe André, que vous inspire notre thème du jour ?
Eh bien, notre thème me fait penser à ce qui se passe à la fin d'une belle randonnée en montagne. Après avoir atteint le sommet, on redescend tranquillement dans la vallée. Et effectivement, parmi les différents soucis de la quarantaine figure le sentiment que, au moins corporellement parlant, on est un tout petit peu quand même sur la pente descendante. Alors, ce n'est pas forcément désagréable, hein, les descentes, il y a même des aspects plaisants. On apprend à lâcher prise, on est en roue libre, on prend le temps de regarder, de souffler. Alors que dans la montée, souvent, on serre les dents. Mais la descente, c'est aussi la fin de la balade, le jour qui décline et les jambes qui flageolent. C'est comme quand on prend de l'âge, le corps fatigue, mais l'esprit grandit en sagesse et en sérénité. Ne rigolez pas, j'ai des preuves, vous allez voir. Pour en revenir à la crise de la quarantaine, elle correspond donc à la prise de conscience que l'on se trouve à peu près au milieu de notre vie. Elle est ce moment où l'on comprend qu'on est peut-être plus près de la fin que du début, plus près du jour de notre mort que de celui de notre naissance, que nous avons plus d'années derrière nous que devant, qu'on n'est plus tout à fait des jeunes mais pas encore des vieux, et que de nouvelles générations, pleines d'énergie, sont en train de nous pousser vers la sortie.
Before I get old, talking about my generation.
Bon, tout ça pourrait ne pas être très gai, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. La principale, c'est que presque toutes les recherches montrent qu'en vieillissant, on devient plus apte au bonheur. La plupart des personnes voient leur niveau de bien-être émotionnel augmenter régulièrement à partir de 45 ans. Et ça monte comme ça de plus en plus jusqu'à au moins 70 ans. Alors il y a tout un tas d'explications possibles. Les matérialistes disent que c'est parce qu'à partir de 45-50 ans, les enfants commencent à être grands et moins fatigants. On est en train de finir de rembourser le crédit de l'appartement, on a mis en principe sa carrière professionnelle sur des rails, etc. Bref, plus de bonheur parce que moins de stress. Mais il y a d'autres raisons, plus psychologiques. Comme on prend de l'âge et qu'on sait compter, on comprend qu'il ne nous reste plus un temps de vie illimité. Pour certains, c'est terrifiant. Et ils refusent de vieillir, ils regardent du côté de la chirurgie esthétique, des vêtements de jeûne, de la musculation, du régime sans gluten. Ils se font teindre les cheveux, blanchir les dents et même, si besoin, échangent leur vieux conjoint contre un nouveau tout neuf. Bon, pour eux, les ennuis ne vont pas tarder parce que, bien sûr, on perd toujours ce genre de course contre la montre. Pour la plupart des autres et la plupart d'entre nous, vieillir, ça va bien sûr nous attrister un peu au début, mais peu à peu, ça va nous stimuler. On comprend que le bonheur, c'est maintenant. On lâche les raisonnements qui consistent à se dire « je m'occuperai de mon bonheur quand ?» Quand j'aurai remboursé mes emprunts, quand les enfants seront casés, quand je serai calife à la place du calife, quand je prendrai ma retraite, etc. On comprend que tout pourrait s'arrêter plus vite que prévu, que ce serait dommage de ne pas avoir savouré la vie. On devient plus intelligent, plus sage, on savoure ce qu'on ne prenait pas assez le temps de savourer, on s'énerve moins sur ce qui nous énervait et qui n'en valait pas la peine. On apprend à lâcher prise, à éviter les personnalités toxiques, les rabat-joie, les grincheux, les casse-pieds. Et ce sont tous ces micro-changements qui rendent la seconde partie de notre vie plus belle. Et vous, chère Ali, qui êtes pile poil dans notre sujet, 44 ans, comment ça se passe chez vous, cette petite crise du milieu de la vie?
Merci d'avoir révélé mon âge. En plus, on est dans l'équipe, on a tous à peu près le même âge. Donc, non, on vit... moi, je le vis plutôt bien. Franchement, je suis plutôt derrière la crise de la quarantaine. Je pense que c'est en tout cas ce que je suis en train de vivre. C'est le bel âge.
C'est la belle partie.
Plutôt le bel âge. Merci beaucoup, Christophe André. Vous restez évidemment avec nous. N'hésitez pas à nous raconter cette crise, cette transition du milieu de vie. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse, à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook.
How successful I am. I'm like a shipping jar cone, full of promise. I'm a salamander, short with lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm a turgid, messed up little goat spitting on your horrible hill. And you can't ship me out, cause you can't catch me, cause you're too slow. No one cares. I'm Miami. I don't think you know who I am. I'm the sausage man, the shadow licker. Ghost that features in your despondent moments, the timeless whisper, the glassy dude. I'm the science of all that's wrong, and I'm making you think that you doubt everything you love, but I'm here to stay.
Interprété Miami.
Moi, je n'aime que la danse et la musique.
Grand bien vous fasse.
On a 40 balais. La fièvre du samedi soir, c'est fini.
Sur France Inter.
10h46, on essaie de comprendre ce matin ce qui se joue avec la crise du milieu de vie. Quelques courriels. Céline nous dit, n'oublions pas que s'il y a crise, il y a vie. Être en crise à 40 ans, c'est aussi être vivant. Et puis Claude nous dit, j'ai 72 ans et je n'ai pas eu du tout de crise de la quarantaine. C'est même la période la plus heureuse de ma vie. J'avais des amis, je pratiquais plusieurs sports, j'étais bien dans ma peau. Et puis un courriel d'une jeune fille de 25 ans, Zoé, qui nous dit, j'ai 25 ans et je traverse depuis un an une profonde crise existentielle et personnelle, et énormément de personnes de mon âge autour de moi semblent vivre également cette quarter life crisis. Pourtant, on en parle beaucoup moins que la crise du milieu de vie. Françoise Millet-Bartoli, sur cette crise des 25 ans, qu'évoquait hors antenne notre stagiaire Antoine Vandeville.
Ça serait cette la crise du quart de vie, alors, si je comprends bien.
Oui, exactement. Après, ouais, exactement.
D'accord. Moi, ça me fait quand même plutôt penser à une crise d'adolescence qui perdure. Et ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne, c'est que je crois que maintenant, la crise d'adolescence est beaucoup moins violente et s'étale sur plusieurs années. Et de même que les âges s'interpénètrent un peu. L'adolescence commence plus tôt, finit plus tard. Les jeunes font des études longues en général. Donc je pense que c'est plutôt une crise, une fin d'adolescence.
Alors vit-on...
Avec l'entrée peut-être dans le monde du travail aussi, qui est angoissante.
Alors vit-on la crise du milieu de vie, la transition du milieu de vie, de la même façon selon que l'on est un homme ou une femme? Pour le psychiatre Christophe Fauré, les femmes sont plus aptes à conscientiser ce passage, alors que les hommes ont davantage tendance à se jeter dans l'action. Vous êtes d'accord avec ça, Françoise Millet-Bartoli?
C'est ce que je constate en tout cas.
Dans votre cabinet?
Voilà. Les femmes arrivent déjà, quand elles consultent, avec une réflexion qui est assez élaborée. Les hommes parlent moins. Je crois aussi que les femmes parlent entre elles beaucoup. Alors que je constate que les hommes qui viennent ont du mal déjà à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ils ont peur d'être malades, d'être fous. Et en général, ils passent plus à l'acte, dans le sens où ils partent plus tôt. C'est un peu pulsionnel, ils partent, on va pas dire qu'ils réfléchissent après, mais...
Merci. Mélissa Drijard.
Nous, dans Quadra, on a le personnage d'Alex, tout le monde lui dit, mais tu es en crise, Alex. T'es en crise.
Qui est ce personnage en deux mots?
Le personnage de François-Xavier de Maison, qui quitte sa femme Isabelle pour Alix Poisson, Agnès, le personnage d'Agnès, et tout le monde, sa mère y compris, lui dit, mais tu es en crise. Et lui, il me dit, mais vous me faites chier avec cette crise, je ne suis pas en crise.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. D'où appelez-vous?
J'appelle de Bordeaux, la région de Bordeaux.
Alors, est-ce que vous la vivez, cette transition du milieu de vie, cette crise du milieu de vie, cette crise de la quarantaine, je ne sais plus comment l'appeler?
Bien, moi, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, alors, personnellement, je l'ai vécu. J'ai aujourd'hui 60 ans. Mmh. Et nous étions, parce que nous venons de vivre quelque chose d'assez difficile. Nous étions un couple, nous avons un couple de 60 ans. Donc, ma femme n'avait pas fait cette crise de quarantaine, comme vous appelez ça, mais elle l'a faite dernièrement. Et et assez rapidement, elle a décidé de partir. Et c'est-à-dire que ce que je voulais, moi, soulever par mon appel, c'était ce qui se passe après, ce qui se passe derrière. Parce que effectivement, comme vous le dites et vous en parlez un peu comme vos invités, ça peut être formidable de penser qu'il y a une nouvelle vie après une telle crise et qu'il y a des choses bénéfiques, etc. Mais moi, je me place de l'autre côté aujourd'hui et je suis celui qui reste finalement un peu comme ça, sur la touche. Bon, je travaille sur moi, etc. Hein. Mais avec tout l'amour que j'ai pour cette femme, nous étions ensemble depuis 38 ans, hein. Et finalement, pour elle, c'est peut-être magnifique et merveilleux, je ne sais pas finalement aujourd'hui, mais pour moi, ça a été très très difficile, ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus, je dirais que ça va mieux parce que j'ai décidé moi-même d'être heureux à nouveau, hein. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, je voulais signaler ça aussi quand même.
Très intéressant Alain, alors pour aller dans votre sens, en amour, sans généraliser, est-ce que les difficultés conjugales ont tendance à se multiplier entre 40 et 55 ans, avec le cocktail explosif pour le couple pendant cette période, usure, plus ennui, plus angoisse existentielle, Françoise Millet-Bartoli?
Oui. C'est une zone de turbulence, on va dire, pour le couple, avec ce que vous venez de dire. Et l'envie de vivre autre chose de plus exaltant, on va dire.
Est-ce que certains couples sont plus exposés que d'autres ?
Difficile à dire, honnêtement. Là, je pourrais pas dire... non, j'ai pas de réponse.
Mélissa Drijard, dans votre série, les couples en crise sont légion.
Oui. on a effectivement plusieurs. On a le personnage de Anne, la sœur, qui fait une crise, qui veut partir en Afrique et qui est en pleine crise aussi avec les hommes, qui comprend pas pourquoi elle doit subir ce célibat comme ça toujours. Et puis il y a ceux qui sont en couple et qui voudraient vivre autre chose. Voilà.
Christophe André.
Oui, c'est-à-dire, allez, vous posez la question de savoir s'il y a des couples plus exposés que d'autres. Parfois, mais c'est toujours facile de réécrire après coup, on sent qu'il y a des couples où les conjoints ne se parlent pas beaucoup de leurs aspirations, de leurs insatisfactions aussi. C'est-à-dire, si on n'a pas fait le boulot de maintenance du couple, c'est du boulot le couple, hein, quand l'autre nous casse les pieds, quand il fait... si on ne lui dit pas, si on supporte, on supporte, soit en attendant qu'il change un jour, soit en pensant à autre chose, il y a un moment donné où on se dit, ah ben non, il ne changera jamais. Ouais, il ne changera jamais. Ah, je ne vais pas finir ma vie avec quelqu'un comme ça. Donc, je crois que le dialogue incessant, les ajustements incessants, les frictions incessantes sont un bon marqueur des évolutions conjointes possibles. Et en l'absence de dialogue, évidemment, ça peut exploser.
Merci beaucoup Alain de nous avoir appelé. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Alors, vous nous appelez d'où Anne ?
Alors, j'appelle d'un petit village, Ilas, dans la région bordelaise.
Alors, pour vous, la vie a commencé à 40 ans.
Voilà.
Et vous en avez 64 aujourd'hui.
Voilà. C'est-à-dire, bon, j'ai été étudiante, après j'ai commencé à travailler, la trentaine, enfin 30 ans, ça n'a pas été rose du tout. J'ai pas aimé cette période. Et bon, j'ai connu le père de mon fils à 38 ans. Nous avons eu un enfant, enfin le premier et le seul pour moi d'ailleurs, à 41 ans et demi. Mmh. Et donc la période la plus intense de ma vie, ça a été entre 40 et 50 ans.
Et après 50 ans ?
Et après 50 ans, jusqu'à 55. Et c'est vrai que j'ai senti que là, disons, ça commençait à décroître à partir de 55 ans.
Qu'est-ce que vous avez senti à ce moment de votre vie que le corps changeait, par exemple, les premiers signes
Davantage fatigué, voilà. Des petits signes qui montrent le début de la vieillesse. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression d'être décalée par rapport à beaucoup d'autres personnes, puisque j'ai démarré plus tard.
Françoise Millet-Bartoli.
Oui, alors, c'est la question de l'enfant de la quarantaine, qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'ici.
Qui pourrait faire l'objet d'une émission entière.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, avoir un enfant, c'est se projeter dans l'avenir. Or, c'est une période où 40-50 ans, on a du mal à se reprojeter. Donc un enfant, c'est merveilleux. Bon, Christophe, tu avais l'air de dire que c'était difficile, que c'était source de soucis.
De fatigue, au moins.
Mais au fond, un enfant, ça permet de se renouveler. C'est une projection narcissique de soi. Et au fond, quoi de mieux qu'une grossesse de la quarantaine ? Alors, souvent, c'est le premier enfant, comme cette dame que nous venons d'écouter. Quelquefois, c'est un petit dernier. Je connais quelqu'un qui m'a dit « Moi, je vais te dire comment j'ai résolu ma crise du milieu de la vie. J'ai fait un cinquième enfant. » C'est une collègue qui travaille, enfin, qui a un métier, une vie apparemment bien remplie. Et elle m'a dit « Voilà, ça m'a sauvée. » Je ne sais pas où elle en est maintenant, mais je pense que la question de l'enfant est très importante.
Merci beaucoup, Anne, de nous avoir appelé. Alors, quelles sont les grandes pistes pour traverser au mieux cette transition du milieu de vie sans trop de regrets, Françoise Millet-Bartoli, Christophe André ?
Oui, je vois que vous me regardez, je ne sais pas si je vais avoir les solutions.
Non, mais quelques grandes pistes.
Les grandes pistes, c'est de réfléchir à ce qu'on a été jusque-là, de réfléchir aux rêves qu'on n'a pas réalisés. Parce que c'est quelquefois en piochant dans ce petit réservoir de rêves, si si en plus on a un petit talent qu'on n'a pas eu le temps d'exploiter, c'est d'essayer de le réaliser ou de se réaliser dans quelque chose qui nous fait plaisir ou qu'on n'a pas eu le temps de développer.
Oui, et notamment également la question du changement de vie professionnelle, mais ça sera sans doute l'objet de notre émission.
Et après, juste je voulais rajouter, je me rends compte que ce qui peut être très intéressant, c'est de passer le flambeau. Et professionnellement, par exemple, d'enseigner, d'entraîner les jeunes avec sa propre expérience, c'est quelque chose qui peut aider à passer le cap.
Mélissa Drigard.
Moi, je dirais, c'est de faire. C'est ce que j'ai appliqué à ma vie depuis mes 20 ans. Donc, j'ai toujours fait, quitte à me prendre un mur, en fait. Voilà.
Merci beaucoup, Françoise Mié-Bartoli. Faudra revenir pour évoquer d'autres thématiques de la crise du milieu de vie. Je recommande La crise du milieu de la vie. Une deuxième chance en poche, Odile Jacob et Mélissa Drigard. Je recommande ce soir à 21h l'excellente série Quadra. Merci d'être venu. Tout de suite, l'intervention de Sabrina Nadjar. Sabrina Nadjar, rédactrice en chef à Femmes Actuelles. Alors cette semaine, vous vous intéressez à la journée sans voiture, le 1er octobre à Paris.
Exactement. Imaginez à Lille la rue de Rivoli, le boulevard Magenta ou encore le boulevard Saint-Germain sans aucun bruit de moteur.
Ah oui,
alors vous pensez rêver. Eh bien ce fantasme un peu fou, ou ce cauchemar, c'est selon, est sur le point de se réaliser, donc effectivement le dimanche 1er octobre. Alors Paris va organiser sa troisième journée sans voiture et pour la première fois, tous les arrondissements sont concernés. Si La Rochelle, Bordeaux ou Lyon ou encore Rennes ont déjà testé la journée sans voiture, ça a été fait dans des périmètres délimités. Et Paris va plus loin cette année. En fait, toute la ville sera interdite aux voitures, motos et scooters. Seuls les taxis, VTC et transports en commun circuleront. Alors, est-ce que c'est un bonheur ou un cauchemar? Eh bien, écoutez, les avis divergent. Alors, que faut-il en penser? Nous avons interviewé deux personnes. Isabelle Test, membre du collectif Paris sans voiture. Elle, évidemment, vous vous en doutez, est pour. Elle considère que c'est un premier pas pour changer les mentalités. Cette journée symbole, festive, permet, selon elle, de prendre conscience de la pollution sonore, visuelle et des dégâts sur l'air. Et puis, la mesure est particulièrement intéressante cette année puisqu'elle s'étend à tout Paris. Donc, elle permettra de faire la différence entre deux dimanches. Alors, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, lui est contre. C'est à l'évidence pour lui une opération de communication. Il considère que ça agace les automobilistes plus qu'autre chose et que finalement on assimile la voiture à la pollution. Et pourtant, la situation n'est selon lui pas catastrophique. Alors en fait, il pense que ça ne change rien sur le plan écologique et ce qui serait plus intéressant selon lui serait de lancer la journée sans bouchon.
Merci beaucoup Sabrina Nadjar de Femmes Actuelles. Demain on se demande comment aider les adolescents en dépression. Questions, témoignages, grand bien vous fasse @radiofrance.com.